À l'écoute des Pères, l'émission de dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton Père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.
Bonjour Jean Charmois.
Bonjour Frédéric.
Nous allons aujourd'hui parler d'un théologien de grande envergure, même s'il a été écarté par les églises orthodoxes et catholiques à cause de son monophysisme, mais qui est reconnu comme un saint par les églises coptes, syriaques et arméniennes. Le lire et l'écouter est indispensable pour approcher avec bienveillance et finesse les chrétiens d'Orient. Sévère est un théologien qui interprète Cyrille d'Alexandrie intelligemment. Il est en opposition au monophysisme radical, celui d'Eutychès, comme à une réception littérale de Chalcédoine. Alors voyons son parcours, Jean.
Alors il est né vers 465 à Sosopolis en Asie mineure. Il est issu d'une famille de rang élevé et va étudier d'abord à Alexandrie, puis ensuite à Beyrouth. Il découvre le christianisme à Beyrouth dans une association d'étudiants chrétiens et reçoit alors le baptême. Il renonce à s'établir comme avocat dans son pays natal et il revêt l'habit monastique dans le couvent fondé à Mayouma, le port de Gaza, par l'évêque monophysite Pierre Libert. Après plusieurs années d'ascèse intense dans différents monastères, il consacre son héritage personnel à la fondation d'un monastère dont il devient le supérieur. Il est ordonné prêtre par Épiphane, un évêque monophysite, privé de son siège qui se trouvait là. Sévère et ses compagnons sont accusés de monophysisme et chassés de leurs murs. Il se rend à Constantinople pour défendre sa cause devant l'empereur Anastase. Revenu en Orient en 511, Sévère est élevé au patriarcat d'Antioche en 512, après la déposition de son prédécesseur soupçonné de nestorianisme. Le patriarche de Jérusalem et d'autres évêques refusent de le reconnaître. Sévère se fait alors le défenseur du texte de compromis qu'on appelait l'énotique, en l'interprétant dans un sens contraire à Chalcédoine. Après la mort d'Anastase, de l'empereur Anastase, et l'arrivée de Justin, partisan du concile de Chalcédoine, Sévère doit quitter Antioche pour se réfugier à Alexandrie. Il retourne à Constantinople à l'invitation de Justinien. Le patriarche réunit un concile qui le condamne, malgré l'appui que lui accorde depuis toujours l'impératrice Théodora. Revenu en Égypte, il finit sa vie, hébergé par des sympathisants, n'ayant jamais pu regagner Antioche, mais il est considéré jusqu'à sa mort en 538 comme le patriarche légitime de cette ville par de nombreux fidèles. Son tombeau devient vite un lieu de pèlerinage et de culte. Alors, c'est un écrivain abondant qui n'écrit qu'en grec. Tous ses écrits ont été voués au feu, mais beaucoup de textes ont été conservés en traduction syriaque. Et d'ailleurs, un travail systématique de traduction de son œuvre en syriaque a été effectué de son vivant. Il y a d'abord des textes de polémique doctrinale, dirigés contre les tenants du concile de Chalcédoine. Il y a sa correspondance énorme, plus de 3800 lettres, dont 300 ont été conservées, celle notamment où Sévère définit précisément et clairement sa doctrine. Ensuite, des sermons prononcés comme patriarche d'Antioche, 132 sermons appelés les homélies cathédrales, préservés dans deux traditions syriaques différentes. Et enfin, il a composé des hymnes, là aussi conservés en syriaque.
Quelle est la christologie de Sévère?
En fait, Sévère exprime la doctrine des monophysites orthodoxes modérés. Sa doctrine est restée mal connue. Et on a confondu dans une même réprobation, en Occident en tout cas, les positions d'Eutychès, monophysisme radical, et de Sévère, monophysisme cyrillien, modéré. Traditionnellement, sa christologie est celle de la contemplation du Logos dans son éternité. Dans un souci de controverse contre Arius et d'affirmation de l'égalité parfaite du Fils et du Père, et pour maintenir l'identité totale du Verbe de Dieu avec lui-même, avant et après l'incarnation. Pour Sévère, l'humanité du Christ n'a pas d'existence propre avant l'incarnation, et elle n'en a pas davantage après. Dans le Christ, dit-il, la réalité concrète, c'est le Verbe de Dieu. En lui, il n'y a pas de nature humaine. Le sujet personnel, c'est le Verbe. Pour Sévère comme pour Cyril, une seule personne, une seule hypostase, une seule nature. L'unité est primordiale. Écoutons quand même comment il s'exprime et combien sa parole est quand même finalement très proche de notre orthodoxie d'aujourd'hui. L'un de la Trinité, le Verbe, Dieu de Dieu, est descendu du ciel et par un prodige incompréhensible pour notre salut, il est entré et il a habité dans le sein de la chair, dans la Vierge Marie. Tout en restant parfaitement auprès de celui qui l'a engendré, il s'est parfaitement incarné dans le sein de la Vierge et il s'est fait homme réellement et non en apparence. Ce n'est pas un autre homme dans lequel celui qui était déjà serait venu et dans lequel il aurait habité, mais celui qui était de toute éternité consubstantiel à son Père, celui-là même est descendu librement et s'est fait consubstantiel à sa mère. Il s'est fait homme, lui qui est Dieu, il est devenu ce qu'il n'était pas, sans aucun changement de ce qu'il était. Là, on voit combien cette approche du Christ est vraiment très conforme à ce que nous pensons, nous, aujourd'hui, dans nos églises catholiques et orthodoxes. Sur l'humanité du Christ dans le sein de Marie, Sévère s'indigne contre les monophysites extrêmes, comme Eutychès, qui nient la maternité réelle de Marie et qui disent simplement que le corps du Christ est passé dans son sein comme dans un canal, comme si le corps du Christ avait une origine céleste. Et Sévère écrit « De ses entrailles comme d'un ciel, Marie a mis au monde Dieu fait homme, qu'elle a divinement conçu et engendré. Non qu'elle ait donné à celui qui est né d'elle la nature divine, car celle-ci est éternelle et plus ancienne que quoi que ce soit au monde, mais bien parce que c'est d'elle-même, par l'ineffable et secrète descente de l'Esprit-Saint, qu'elle lui a donné l'humanité. » Et encore, « Le Christ est formé de la divinité et de l'humanité, sans mélange et sans altération. D'une part, selon sa nature propre, la chair du Verbe engendré de Dieu le Père, d'autre part, selon la raison propre de sa nature, le Fils unique de Dieu. Cependant, reconnaître les natures d'avant l'union n'exclut pas une nature unique après l'union. » Il réfute toute idée de préexistence de l'humanité du Christ, qu'il qualifie de nestorienne. Le Verbe s'est uni hypostatiquement à la chair, sans qu'elle ait existé auparavant et sans que l'existence de la chair puisse même être conçue par l'Esprit antérieurement à l'union au Verbe. Donc, vous voyez quand même l'importance du le fait que les termes qui sont utilisés n'excluent pas une certaine identité de vue entre Sévère et les positions chalcédoniennes. Mais il ne peut pas accepter la conception Sévère, la conception nestorienne de l'habitation dans la chair. Le Verbe n'habite pas dans une chair extérieure. Il s'est fait chair d'une façon prodigieuse et mystérieuse à la fois. Donc il n'est pas venu dans une chair, il est venu, il s'est fait chair. Et le souci d'éviter toute apparence d'habitation dans la chair empêche Sévère de concevoir dans Marie la chair sans le Verbe, ou une chair qui ne soit pas celle du Verbe. Il n'y a pas de séparation, même instantanée, de la chair et du Verbe. Toute origine autre que divine de la chair du Christ est formellement rejetée. La descente du Verbe, c'est-à-dire son abaissement, sa kénose, comme on dit, et la conception de la chair sont absolument concomitantes. Aussi, il apporte une nouveauté dans la théologie qui est la notion de l'économie. Sévère écarte de l'ordre de la nature la génération temporelle du Verbe de Dieu. Et cette génération, c'est le principe et le commencement d'un ordre nouveau et mystérieux, celui de l'économie. C'est quoi le mode de l'économie ? C'est le mode de l'incarnation et c'est surtout un mode volontaire où rien n'est forcé. Rien n'est nécessaire, tout s'accomplit par la libre volonté du Verbe de Dieu. Et cet ordre de l'économie est irréductiblement différent de l'ordre de la nature, parce que l'ordre de la nature, c'est l'ordre de la nécessité des lois créées par Dieu. Et il écrit « L'incarnation de Dieu, le Verbe, n'a pas pour raison la nature, mais celle d'une économie accomplie par Dieu au-dessus de la nature. »
Et puis en début d'émission, Jean, vous nous avez dit qu'il avait prononcé 132 homélies à la cathédrale d'Antioche.
Oui, quelques mots sur ces homélies qui sont évidemment qui ne sont pas que de la théologie, mais aussi les textes d'un pasteur attentif et d'un maître spirituel. Alors, il y a quatre grands thèmes dans ces homélies: l'amour des pauvres et des nécessiteux, la vie familiale et l'ascèse, et les plaisirs aussi. Alors, l'accent est mis sur la cohérence entre les paroles et les actes, pour le pasteur bien sûr, mais pour aussi ses auditeurs. Pour Sévère, un témoignage à la gloire de Dieu, caractérisé par l'imitation de Jésus-Christ, la sanctification, la solidarité et le respect de la vie, participe à la mission de l'Église, qui consiste à gagner les non-croyants à la foi chrétienne. C'est pourquoi les fidèles sont exhortés à persévérer dans la prière, à se décentrer d'eux-mêmes et de tout ce qui est inutile et passager pour fixer leur regard vers l'éternité. Il écrit quelques passages de ses homélies, une homélie pour la théophanie. Pourquoi donc nous, en cette fête, alors que nous voyons notre table débordée de mets variés, ne partageons-nous pas avec ceux qui ont besoin de ce superflu? Pourquoi, alors que nous nous pavanons dans des habits riches et très coûteux, faits surtout pour la beauté et non pour l'utilité, ne protégeons-nous pas un frère du froid qui le pénètre? Comment ne mentons-nous pas en disant « nous célébrons la manifestation de la lumière divine » si nous ne faisons pas nous-mêmes une œuvre de lumière? Autre homélie sur l'aveugle né. Que chacun de vous, en allant à sa maison, verse 3 oboles de cuivre dans la main tendue de chacun de ces aveugles qui mendient. Si quelqu'un n'a pas d'argent sur lui maintenant, qu'il accomplisse cette pieuse recommandation le prochain jour. En effet, d'une part, pour celui qui donne, c'est peu. D'autre part, pour celui qui reçoit, c'est beaucoup, quand il recueille de partout à la fois. Que soit honorée, en effet, par 3 oboles, la foi de cet aveugle qui dépasse toute estimation. Le Christ aussi s'est fait pauvre volontairement. Et sur le jeûne et la prière, il écrit « Tous nous avons besoin du jeûne et de la prière. Le jeûne, ce n'est pas celui des aliments, c'est l'éloignement de tous les maux. Si tu es malade de l'avarice, le démon qui en allume le feu s'avance et se jette sur ton âme. Jeûne donc et dompte par la faim le désir de l'avarice, en amassant pas et en donnant ce que tu possèdes à ceux qui sont dans le besoin. Et en priant, tu te délivreras aussitôt de cette folie. Si tu abordes très durement tes débiteurs en réclamant de lourds et exécrables intérêts, tu ne diffères en rien du démon qui met l'homme en pièces. L'adultère et le service de son ventre, voilà les vrais collecteurs d'impôts et les vrais percepteurs. Toutes ces passions qui accueillent l'action des démons sont chassées par le jeûne et la prière.
À l'écoute des Pères, l'émission de dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton Père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.